Aujourd'hui, direction Paris 12 pour aller à la rencontre de Marion Delpech, une des cofondatrices de l'association Act Right. Elle fait également partie de Technopole, Provocative Women for Music, des Colérés, Natsat, Château Perché, Festival. Elle a clairement plus d'une corde à son arc et elle est persuadée que la fête est un excellent vecteur de messages.
Le Red Bulletin.
Bonjour Marion.
Moi, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Tu es une des cofondatrices d'Act Right, une association soutenue par le ministère de la Culture et le Centre National de la Musique. Tu es aussi membre de Technopole. Et c'est comme ça que tu as rencontré Cindy, l'autre cofondatrice.
Exactement, ouais. Bonjour tout le monde, merci à toi, je suis super contente. Ouais, en effet, toutes les deux, on s'est rencontrées via Technopole. Technopole, c'est l'association qui représente les professionnels des musiques électroniques, donc tous ceux qui organisent des teufs, mais aussi les labels, les artistes, etc. Et en fait, on fait tout le lien avec les institutions, que ce soit le gouvernement, mais aussi en effet les différents ministères. Et notamment pas mal pendant la crise, puisqu'il y a aussi pas mal de fêtes qui sont faites annuler avant que les discothèques soient vraiment fermées. Et donc, c'est tout le lien avec les préfectures, par exemple, qui sont jamais très, très contentes d'avoir des gens qui font la teuf chez eux. Donc, ils peuvent annuler des fêtes de manière totalement arbitraire. Donc, ça aide tout ça, quoi. Faire sauter un peu les décisions politiques qui n'ont aucun sens. Et aider surtout les pros aussi. Et puis, avoir des subventions aussi qui ont pas mal aidé le monde de la teuf pendant la crise, etc. Bref. Voilà, on vit au jour le jour, quoi.
Act Right, c'est un projet qui fait sens. C'est un projet aussi qui découle de cette dynamique, de cette mouvance et de ce contexte assez particulier à la France. Vous qualifiez Act Right comme un appel à sursaut, c'est-à-dire
Act Right, c'est en effet un projet qu'on avait commencé à penser il y a à peu près 2 ans et demi, donc avant la crise. Cindy, de son côté, elle, donc Cindy Lodicès, est manager et agent d'artiste, musique électronique. Elle avait pas mal de soucis du côté de ses artistes femmes lorsqu'elles étaient en tournée, parce que bon, tu peux pas évidemment être avec tes artistes à 24, surtout qu'il y en a, il y a plusieurs femmes hein, dans ses artistes, et on reste des petites équipes. Donc ça va être son artiste qui s'endort, par exemple, dans une voiture pour rentrer du festival où elle jouait. Elle se réveille, t'as le chauffeur qui est en train de lui mettre la main entre les jambes, quoi, ce genre de choses. Ou ça va être un promoteur, donc un organisateur d'événements, qui faisait une soirée pour les femmes, avec d'un point de vue caritatif, où il y avait les dons étaient reversés à une association féministe. Enfin bref, j'ai plus les détails. Le promoteur, même si c'est quelque chose qu'on fait pas forcément, mais dit bah moi j'ai une grande maison, les artistes peuvent dormir chez moi, etc. Tu dis bon bah le mec fait un truc féministe pour les meufs, donc ça va, c'est cool. Non, ça rate pas. Au milieu de la nuit, le mec se met dans le lit justement d'une des artistes de Cindy en commençant pour vouloir la toucher. Tu vois, enfin des trucs super malsains en plus. Donc elle, en effet, avait ce souci-là. Moi, de mon côté, j'organise aussi des événements, mais c'était plutôt au niveau du public. Où c'est vrai qu'on commençait il y a 2-3 ans à parler beaucoup plus d'agressions sexuelles et de viols au sein des événements, ce qui avant était beaucoup, beaucoup plus limité. Et donc, en effet, cet appel au sursaut, c'était ça. C'était de se dire, même s'il y a déjà pas mal d'assos qui bossent sur le sujet depuis longtemps, et il y en a aussi de nouvelles qui sont créées, et de se dire que c'était, pour nous, en tout cas, on voulait plus continuer dans un monde professionnel qui nous convenait pas, plutôt que d'attendre que les autres le fassent, bah, autant se mettre aussi, autant mettre la main à la pâte.
C'est un projet qui est très dense, qui œuvre pour une fête plus safe, plus paritaire, plus inclusive,
ouais,
plus responsable, et qui propose un label de qualité, et tout ça via l'accompagnement des structures du milieu de la nuit, donc festif. Concrètement, vos actions, elles se traduisent de quelle manière ?
Ouais, c'est vraiment un programme politique, donc je sais, c'est assez long la baseline. Concrètement, en fait, on développe un label de qualité. Ce label de qualité, donc on le fait en effet main dans la main avec le Centre National de la Musique. L'idée, c'est d'accompagner les structures sur une durée de 3 ans. La première année, ils sont obligés de faire une formation sur les violences sexistes et sexuelles, qui de toute façon maintenant est indispensable, même en dehors du label de qualité. Toutes les structures qui ont des subventions de la part du ministère de la Culture sont obligées de faire depuis 2020 une formation sur les violences sexistes et sexuelles, donc ça c'est cool. Enfin, tout du moins, le gérant est obligé, ou la gérante, mais en général, c'est des gérants dans la musique. Et nous, dans le cadre de notre label de qualité, ensuite, on les accompagne donc, pendant 3 ans. La deuxième année, ils mettent en place 2 nouvelles mesures. Une autour de l'écologie, développement durable et les sociales. Et puis une autre autour de la réduction des risques. La réduction des risques, pour expliquer, c'est vraiment tout ce qui est alcool, drogue, sexe, bref, tous les comportements qu'on peut éventuellement avoir et qui peuvent être à risque. Donc l'idée, c'est de dire, on sait que ça n'arrive pas du jour au lendemain. On sait aussi que c'est compliqué pour les structures musicales de tout faire changer du jour au lendemain. On a un peu cette image de se dire que les clubs, par exemple, ils s'en mettent plein les poches, etc. c'est pas vraiment le cas. Donc plutôt que de tout changer du jour au lendemain, c'est vraiment de les accompagner main dans la main et de dire bah vas-y, tu vois, petit à petit, on peut mettre en place des petites mesures qui sont pas si compliquées, qui te coûtent pas forcément si cher, mais qui permettent quand même de tendre vers un monde plus responsable. Et puis de se dire, par exemple, les énormes festivals et tout, moi j'ai rien contre, mais faut pas oublier que même quand on fait la fête, bah ça a aussi un impact sur la terre, sur ce qu'on consomme. Et que dans 50 ans, si on fait plus très attention à ça, ou qu'on va à l'autre bout du monde pour juste faire une semaine de festoche pour des artistes qui eux aussi ont fait 50 fois le tour de la Terre, bah au bout d'un moment, ça, on va pas vraiment pouvoir continuer à le faire. Et donc de retourner à des choses aussi qui soient plus locales. Donc bref, voilà, c'est assez drôle.
Tout ça, ça passe quand même par la communication, c'est un point clé. Informer les publics, informer les acteurs du monde de la nuit. Du coup, vous collaborez avec pas mal d'associations.
Quand tu parles d'associations, tu veux dire d'associations qui bossent sur le même sujet que nous ou
ou en tout cas qui sont complémentaires.
Ouais. Bah en effet, nous on sait, on a donc trois pans qui sont en effet les violences sexistes et sexuelles, la réduction des risques donc et le développement durable et social. On peut pas tout faire, hein, évidemment. On est quatre dans l'équipe, tu vois, il y a Claire derrière toi.
Salut Claire.
Coucou.
On peut pas tout faire et surtout il y a des gens qui sont experts et expertes là-dedans. L'idée, ça va être par exemple sur la réduction des risques de bosser avec Fête Éclair, qui est une association qu'on retrouve régulièrement sur les événements festifs en Île-de-France, et qui eux donc vont vraiment pouvoir expliquer tout ce qui va être les produits stupéfiants, etc. Au niveau des violences sexistes et sexuelles, on donne des formations aux quatre coins de la France, mais nous on est basé à Paris. Ça fait pas vraiment sens que nous, des Parisiennes et Parisiens, il y a un garçon dans l'équipe quand même, on descende par exemple à Marseille pour faire des formations alors qu'il y a des assos locales qui le font aussi très bien. Donc l'idée c'est de leur refiler ces formations là, de vraiment mutualiser. On est peu d'associations à travailler là-dessus, autant que tout le monde ait sa part du gâteau, parce que de toute façon il y a largement assez de taf à faire, et de bosser vraiment tous et tous ensemble. Donc pour en citer quelques-unes, ça peut être Consentis en Ile-de-France, ça peut être La Petite qui est à Toulouse, ça peut être les Catherinettes qui sont plutôt en Bretagne. Bref, il y a déjà un réseau quand même qui est assez, pas forcément dense, mais en tout cas qui est présent depuis longtemps.
Très engagé.
Je sais pas si ça répondait à la question.
Ça répond complètement à la question. Et du coup, le fait que ces associations de terrain qui sont très, très localisées, vient aussi du coup après ça la question de l'urgence et de la sécurité. Quand tu me parles de Consentis, La Petite à Toulouse, on est plutôt sur des violences, sur de la parité quand il y a des bookings pour les line-up. Mmh. Mais au niveau de la sécurité, on va dire des vigiles, des doorman devant les clubs, dans les clubs, pendant les soirées, avant, après.
Ouais.
Comment ça se passe pour les former, eux ?
C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet dans le sens où, en fait, la plupart des lieux, il faut savoir qu'ils n'ont pas de sécurité en interne. Donc, ça passe par des prestataires, des boîtes. Ce qui pose un souci parce qu'en fait c'est des gens qui tournent tout le temps. Tu vas pas avoir forcément le même agent de sécu ou les mêmes agents de sécu au sein de ton club chaque semaine, puisqu'ils peuvent être mis sur d'autres missions, etc. Donc ce qui fait que déjà pour les former c'est vachement compliqué, parce que parfois ils vont faire que trois fois dans un club et basta. Faut savoir que les agents de sécu à l'heure actuelle, ils n'ont pas une formation pour travailler dans le monde de la nuit. C'est-à-dire que t'as la même formation pour être vigile au supermarché qu'être vigile dans un club. On n'est pas du tout sur le même public, évidemment. On n'est pas, pas du tout sur le même public, on n'est pas du tout sur les mêmes comportements et surtout, on n'est pas aussi sur la même tolérance. Enfin, pour certains vigiles, en effet, c'est incompréhensible d'avoir des mecs qui vont se pécho en club ou des meufs les seins à l'air parce que ça va contre leur culture et ça, c'est pas tant un souci. Après, chacun a sa vision des choses. Mais c'est vrai que pour nous, c'est problématique parce qu'en effet, on part du principe que l'espace festif reste un espace libre. Et qu'en effet, si des gens veulent se pécho entre eux, bah, ils se pécho entre eux. Si des gens veulent se mettre à poil, ils peuvent se mettre à poil. Après, évidemment, ça dépend de chaque organisateur et organisatrice aussi, ce qu'il veut mettre en place au sein de ces événements. Mais bon, nous, en tout cas, on promeut une fête la plus libre possible, tant qu'elle reste respectueuse des autres personnes autour. Tout ça pour dire, les agents de sécu, si vraiment on voulait les former, c'est soit qu'ils sont rattachés au club, donc ça, c'est trop cool, ou au festival. Et donc, nous, on en a régulièrement qui sont au sein de nos formations sur les violences sexistes et sexuelles. Les autres, après, le problème, c'est que les boîtes de sécu veulent pas prendre en charge ces formations pour leurs agents de sécu. Parce qu'ils disent qu'après, mon agent, il peut aussi bosser pour une autre boîte de sécu. Donc, c'est moi qui ai payé la formation de cet agent-là, et que alors qu'il va peut-être bosser pour un concurrent. Bref, un système qui est totalement con, puisqu'en fait, on fait pas avancer le truc. Donc, il faut qu'on se rapproche auprès de la fédération des agents de sécu, etc., pour faire une formation... Ah oui, bien vu Claire, pour le CPF. Mais Claire vient de me faire remarquer à juste titre qu'on peut briefer ses agents de sécu.
Yes.
Et en effet, dès le départ, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, si tu fais une soirée LGBT et que tu sais que tu as des agents éventuellement dans une boîte de sécu qui sont un peu homophobes ou enfin bref, ce qui peut arriver, bah, t'essayes évidemment de pas mettre ces agents-là, quoi, tout simplement. Et de dire, bah, ce soir, ça va être une soirée où, en effet, ce sera LGBT dans mes équipes, qui j'ai pour répondre à ce besoin-là, en fait, tout simplement.
Hier, on était le 23 février et il y avait la première rencontre nationale interassociative sur la réduction des risques et des violences sexistes et sexuelles.
Il y a eu quoi hier? J'ai raté quelle info, ça va, en fait.
Comment ça s'est passé? Quel sujet a été le plus abordé? Est-ce que vous avez trouvé des réponses, des clés? La journée s'est articulée de quelle manière?
Hier, ouais, c'était la première rencontre qu'on faisait autour de la réduction des risques sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu festif. Donc, en effet, c'est bien long, mais on n'a pas réussi à faire plus court. Concrètement, ça a fait réponse un peu à tout ce qu'on entend dans les médias sur le GHB. Faut savoir que... je vais recommencer ma phrase. On était environ une quarantaine d'assos, donc hier, ensemble, pour bosser entre nous, aussi bien des assos de violences sexistes et sexuelles que de réduction des risques, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes enjeux, même si après, le résultat elle-même, c'est qu'on veut que tout le monde soit safe. Hein. Mais bon, c'est vrai que nous, de notre côté, ça va être plutôt les minorités, alors qu'eux, ça va être vraiment autour des produits psychoactifs, etc. Mais bref, tout ça se rejoint. On entend énormément parler du GHB en ce moment. On entend, y a aussi beaucoup de libération de la parole, donc ça c'est cool. Il y a beaucoup d'Instagram qui se créent, hein, ça peut être les balances tombards, etc., etc. Donc ça, en vrai, c'est chouette. Le problème étant que le GHB, ça existe depuis les années 90. C'est pas nouveau, hein, ce problème-là. La majeure partie du temps, c'est utilisé de manière récréative. Alors évidemment, après, chacun a sa libre appréciation du récréatif ou non, mais je veux dire, c'est en tout cas utilisé de manière consciente et voulue sur soi. C'est très compliqué d'avoir des chiffres sur à quel point c'est utilisé de manière criminelle. Comment dire, administrer une substance à l'insu d'une personne, en effet, est répréhensible pénalement, et d'autant plus si derrière c'est pour l'agresser sexuellement, voire violer la personne. Le problème étant, c'est que la plupart du temps, quand ça arrive, les personnes sont peu ou pas prises en charge, tout simplement parce que ça peut être, tu dis, ah bah merde, je suis un peu fatiguée, ou j'ai peut-être un peu trop bu, donc tu vas rentrer chez toi. Ce qui n'est pas l'idéal non plus. Soit tu vas appeler les forces de l'ordre, tu vas aller déposer plainte, tu vas être super mal accueilli. Ou troisième truc, tu vas aller à l'hôpital. Et encore faut-il, là hier j'en parlais avec... une fois, il y a une potentielle victime qui a fait 3 hôpitaux différents pour faire une analyse de ses urines. Personne ne l'a prise. Donc pour dire qu'elle a quand même essayé toute la journée de faire ça. Et on lui a dit, non mais c'est bon, vous rêvez, machin, nan, nan, nan. Bref. Donc en fait, c'est très compliqué d'avoir des chiffres puisque de toute façon, le parcours est super compliqué pour juste être prise en charge. Donc ça, c'est le premier point. Le second étant qu'il y a très peu de GHB qui tourne en France. C'est un produit qui est extrêmement cher, qu'on ne trouve pas comme on veut. C'est utilisé par les médecins, quoi. Donc en fait, il faut directement aller en prendre à quelqu'un qui est dans le corps médical. Donc c'est quand même pas évident. Donc il reste derrière le GBL, en effet, qui est pas du GHB. Ouais, c'est un peu le... Je te fais tout blabla, comme ça tu couperas ce que tu veux.
Je t'en prie.
Qui est pas du GHB, mais par contre, une fois que tu l'inhales, en effet, ça se transforme en GHB dans ton organisme. Ça a un autre problème, c'est que c'est vachement odorant. Donc on a aussi cette question de se dire à quel point on peut quand même vraiment droguer à l'insu une personne avec du GBL, parce que ça sent vraiment très fort. Après évidemment, tu peux aussi rater une odeur, etc. Mais bon, il y a quand même peu de chance. Donc au final, on attaque plutôt sur le chemin des benzodiazépines, et ça en fait, ça va être des tranquillisants d'également. Ce que tu trouves en pharmacie, ça peut être du tramadol, ça peut être n'importe quoi, tu fous dans un verre. Ensuite, la victime va commencer à être un peu dans les vapes. Donc en fait, tout ça pour se dire qu'on nous parle vachement de GHB, etc., de lutte anti-GHB, mais qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont... Les personnes qui le consomment de manière récréative, elles se retrouvent super stigmatisées. On est toujours sur le même système, répression, etc., plutôt que de faire de la prévention et d'accompagner ces personnes-là. Et de deux, en fait, c'est même pas le GHB le problème. Le problème, en fait, c'est les personnes qui vont agresser d'autres personnes, et qu'importe le moyen. Donc en effet, hier, on était ensemble un peu pour rebosser là-dessus, tout recentrer, parce que le vrai problème, c'est les violences sexistes et sexuelles. En effet, par un moyen de drogue, mais là, on voit plein de trucs, lutte contre le GHB, en fait, ça fait pas sens. Enfin, il y en a pas, de toute façon, déjà, tu vois. Donc on est totalement à côté de la plaque. Et donc Marlène Schiappa nous a en effet fait une superbe annonce la semaine dernière en disant que tous les clubs, etc., seraient soumis à un plan anti-viol. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, la victime peut scanner un QR code pour qu'elle soit directement mise en contact avec la police. C'est vrai qu'en général, on sait que la police, c'est clairement eux qui prennent le mieux en charge ce genre de soucis. Que de deux, le plan anti-viol sera directement activé si une personne est retrouvée inanimée, mais juste inanimée et violée, tu vois. Alors quid de tous ceux qui sont toutes celles qui vont aller se présenter parce qu'elles sont encore conscientes, donc ça on s'en fout un peu plus, tu vois, enfin c'est trop chelou. Et puis de trois, si jamais t'es bourré mais que donc on t'a aussi mis la drogue dans ton verre, etc. Normalement, tu vas d'abord passer par l'étape cellule de dégrisement, ensuite pour peut-être aller à l'hôpital, en sachant que les produits sont extrêmement peu, restent très peu longtemps dans le sang. Je suis pas scientifique, hein, donc de tête, je sais plus, mais genre ça va être 4 à 6 heures, quoi. Donc en gros, t'as le temps de faire ton dégrisement tranquille, puis après, bon, bah c'est mort, quoi, tu vois. Enfin, que des trucs qui font pas sens. Donc voilà, donc on a bossé dessus, et ouais, et pour dire aussi, le vrai problème, c'est. C'est que comme d'hab, on n'est absolument pas concerté. Enfin, le gouvernement a lancé un plan. Dedans, il y avait l'UMIH, donc, qui est on va dire, le syndicat des restaurateurs. Très bien. Les forces de l'ordre, évidemment, et Darmanin et le ministère de l'Intérieur. Et ce qu'il n'y a pas. Enfin, et tu dis, tu n'as personne du monde de la nuit, tu n'as aucun club, tu n'as aucun bar, tu n'as aucune association qui travaille là-dessus. Et en fait, pourquoi ? Donc voilà.
Et pourtant, vous êtes soutenu par le ministère de la Culture.
Ouais, mais alors, c'est quand même des choses qui sont assez différentes dans le sens où nous, en effet, les clubs qui ont une licence d'entrepreneur de spectacle, donc c'est-à-dire des clubs en fait qui vont changer de programmation tous les jours. Si on est à Paris, on va prendre le Rex Club, par exemple, le Sacré, le Glazart, tout ce qu'on veut, ou la Machine du Moulin Rouge. Nous, en effet, on est soumis au ministère de la Culture puisqu'on part du principe donc on a une programmation artistique qui change tous les jours. Les clubs généralistes ou je sais pas ceux tu vois avec 4000 personnes où le DJ change jamais etc, eux en effet c'est le ministère de l'Intérieur. En fait on part du principe que c'est des débits de boissons, qu'en effet ils sont pas là dans une intention artistique, mais il y a une intention de teuf, hein, mais que c'est pas le même objet. Donc nous on est soutenus par le ministère de la Culture, c'est cool, on est mais tu vois c'est pas la culture qui va s'occuper de tout ce pan sécuritaire etc, et donc en effet c'est pour ça que là ça rejoint à l'Intérieur, Darmanin, ce qu'il y a pas. Et qui après en effet nous concerte pas. Alors que nous, en effet, la culture, oui, on va être concerté, mais pas sur les mêmes sujets.
Oui, puis ce serait de la concertation entre vous, entre personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes idées. Oui.
Et... on n'est pas, tu vois, entre Bachelot et Darmanin. Bon, même si après il y a plein de choses à dire sur Bachelot aussi, mais on n'est quand même pas sur le même mood, quoi.
Néanmoins, il y a quand même une application qui s'appelle Safer,
ouais,
pour pallier en tout cas à ces violences sexistes, sexuelles, harcèlement. Dans les festivals, c'est une application de localisation, ouais, et de prévention aussi.
Ouais, Safer, c'est une appli qui a été élaborée par l'association Oran, qui s'occupe du festival Mars Attack à Marseille. Concrètement, l'idée, c'est en effet qu'elle soit utilisée aussi bien par les festivaliers que par les organisateurs et organisatrices. Je crois que bientôt, ce sera déployé dans les clubs, si je ne me trompe pas. En effet, si jamais il t'arrive quelque chose ou si tu es témoin d'un agissement au cours d'un événement, tu peux directement te géolocaliser. Là, c'est des bénévoles qui viennent te prendre en charge. Ces bénévoles, en amont, auront fait des petites formations, mais via des vidéos qui ont été faites par l'association Consentis, qui explique justement le consentement, les agressions, etc. Alors évidemment, ça reste des mini-formations et ça ne va jamais changer. Enfin, ce n'est pas équivalent à une vraie formation dans la durée. Mais pour autant, en fait, ça leur permet de prendre en charge de potentielles victimes ou de témoins et ensuite de les amener dans un coin, une safe zone, etc., par exemple. En tout cas, un endroit où il y aura d'autres personnes pour les prendre en charge. Ou ça peut être la Croix-Rouge aussi, ou ça peut être... Bref, ça dépend vraiment des festivals. Et en fait, nous, on était assez contentes avec Actuate, en effet, de bosser sur le sujet, parce que l'idée, c'est après que ce soit déployé dans un maximum de festivals, que les personnes aient une seule appli qui soit utilisée partout, et où en fait ça devient un peu un mécanisme. Alors ça veut pas dire que l'application ça remplace tous les autres systèmes de prévention, parce qu'il y en a plein d'autres, mais autant utiliser tout l'arsenal en fait, enfin je sais pas si arsenal c'est le bon terme quoi, mais tous les moyens possibles qui peuvent éventuellement rassurer aussi.
En résumé, Act Right c'est un projet collaboratif et surtout sociétal. Les musiques électroniques, on sait qu'elles sont précurseurs de plein de choses dans nos sociétés. Et en même temps, cette problématique de parité, de violence sexiste et sexuelle, d'écologie, ben ça touche pas que les musiques électroniques.
Ouais.
Ça touche aussi les musiques entre guillemets hip-hop, urbaines et tous les qualificatifs qu'on veut bien leur donner. Est-ce qu'il y a un moment donné, vous vous êtes dit, on voit plus large ?
Qu'on sort un peu, nous, de notre petit monde à nous pour être relié à ce qui se passe dans la société de manière générale.
Des fêtes de musique hip-hop, il y en a, et ils ont exactement les mêmes problématiques que vous. Est-ce que c'est des gens, juste parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans le même type de communauté, donc il n'y a pas de dialogue, ou est-ce que simplement vous n'y avez pas pensé ?
Est-ce que je peux intervenir deux secondes ?
Ouais, ouais, j'ai vu ta petite tête sortir comme ça de l'ordinateur, c'est pour ça que j'ai rigolé.
Viens, Claire, viens nous rejoindre.
Non, mais c'est juste pour
pour souligner qu'on ne travaille pas nécessairement qu'avec les acteurs et les actrices du secteur des musiques électroniques, mais on travaille aussi avec tous les acteurs et les actrices du secteur des musiques actuelles de manière générale. Et là, sur le plan des formations, on travaille aussi avec des structures qui, elles, sont plutôt sur une programmation ou une esthétique qui va être hip-hop et qui va être rap et qui, eux aussi, justement, ou elles aussi, rencontrent les mêmes problématiques, du coup, dans leur soirée et qui, du coup, font appel à nous pour se former. Donc, on ne se limite pas au secteur des musiques électroniques. Après, c'est vrai que, voilà, au niveau de l'étude, etc., dont Marion parlait tout à l'heure, on s'est un petit peu focus là-dessus parce que c'est vrai que c'est un peu notre... spécialité, enfin en soi on vient un peu de ce secteur là donc c'est un petit peu tout ce qu'on connaît nous de notre côté, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte avec les personnes qui nous contactent et qui viennent vers nous que de toute façon c'est une problématique qui concerne tout le secteur musical et festif, et en fait sachant que la culture est aussi le reflet de la société de toute manière, ce qui se passe dans nos secteurs culturels c'est ce qui se passe aussi dans la société quoi, et en agissant justement dans ce milieu là et dans ce secteur là on a espoir de créer aussi des dynamiques et de changer un peu les mentalités sur les personnes qui viennent ici pour faire la fête. Et peut-être qu'en sortant du club ou en sortant de la soirée, ils vont se dire « Ah, c'est quand même cool la bienveillance. Je vais peut-être essayer dans la vie de tous les jours. »
Voilà. Mais oui, la bienveillance, c'est très cool et on en a besoin.
Pour rebondir aussi, justement, tu parlais de parité au début de ta question. Enfin, ça me faisait penser en fait que donc, le mouvement des musiques électroniques, ça existe depuis à peu près les années, fin des années 80, début 90. Où au début, c'était quand même un mouvement super marginal, d'une certaine manière. Pas mal en réaction à la politique. Ça a commencé aussi pas mal, justement, aux États-Unis, en Angleterre. Notamment un peu avant sous Thatcher, etc. Et puis, ça a toujours permis, en fait, de s'extraire un peu de la société, de la politique et de ce qui se passe de plus ou moins affreux dans le monde. Puis nous, ça a mis un peu plus de temps en France, etc. Avant que ça devienne réellement, on va dire, mainstream, même si ce n'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, ou grand public dans les années, on va dire à peu près 2010, notamment avec Concrète, etc., qui ont pas mal démocratisé tout ça. Et donc, c'est vrai que souvent, c'est la question, est-ce que les musiques électroniques doivent être politiques ou pas? Ou en tout cas, même la musique, en général. Moi, c'est vrai que je reste persuadée que ça doit être politique, et que ça l'est. Et qu'au final, ça reste un moyen d'expression où on peut aussi faire passer des messages d'une autre manière. Donc, c'est pas... On a évidemment les médias classiques, on a aussi les podcasts, comme on est en train d'en faire un. Mais la fête, tu peux aussi clairement passer des messages. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de le faire, mais tu peux véhiculer des valeurs, ça peut aussi poser des questions éventuellement. Ça rejoint aussi les stands de prévention éventuellement, ou même, tu sais, t'en as qui mettent des expos en même temps, enfin bref. On a plus ou moins assez de liberté, pour l'instant, espérons, encore sur le long terme, pour pouvoir faire ce qu'on veut au milieu de ces lieux-là. Au milieu de ces lieux-là, c'est redondant. Bref, au sein de ces lieux-là. Donc, autant l'utiliser. Et moi, je trouve ça cool si, en effet, comme Claire disait, si t'as une ou deux personnes, après, qui disent « Ah, peut-être, en effet, je vais plus faire attention aux gens autour de moi, parce qu'avant, on le faisait pas du tout. Maintenant, on parle de plus en plus, évidemment, des cas d'agression et tout. Et puis, il y a plus de gens, je trouve... qui regardent autour, qui vont éventuellement aller voir des personnes qui se sentent pas bien alors qu'ils les connaissent pas. Et ça, c'était un truc, genre moi, il y a 5-6 ans, ça me rendait dingue de voir, je suis dans une teuf, ça arrive toujours, des personnes qui ont pris trop de drogue, par exemple, ou qui sont bourrées, enfin bref, c'est pas nouveau. Tu les vois en général qui sont assis dans un couloir, tu sais, par terre, tout seul, avec leur bouteille d'eau, et de se dire, toutes ces personnes qui passent devant, et personne ne s'arrête pour leur demander si elles vont bien, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, comment on peut arriver à aussi peu d'humanité? Mais ça, c'est ce qu'on voit partout. Ça va être évidemment les clochards qu'on voit dans la rue. Enfin bref, et on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Putain, j'ai fait un raccourci incroyable d'un coup, là. Non, mais pour dire, en fait, voilà, si on peut un peu plus se soucier de ce qui se passe au sein de nos événements et donc après que ça se reflète aussi dans notre vie de tous les jours, c'est déjà quelque chose de gagné, moi, je trouvais. C'est cool.
C'est plutôt pas mal.
Ouais.
Merci à toi, Marion, d'avoir pris le temps de me rencontrer aujourd'hui.
Ça fait du bien de voir les gens en vrai, tu sais. Tu peux revenir demain si tu veux.
Claire, merci aussi pour ton intervention. J'espère que ça parlera à pas mal de gens.
J'espère aussi. En tout cas, ouais, voilà. Si ça peut éveiller quelques curiosités, ce sera déjà ça de gagner. Donc c'est
yes.
Cool.
Top. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Je suis Marie-Maxime Dricot. C'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin, réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté, et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.